15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Dès aujourd'hui, nous nous mobilisons et nous adaptons l'émission et notre antenne, évidemment, au vu de l'actualité de l'épidémie de coronavirus en France. Alors aujourd'hui, il est encore à mes côtés dans ce studio pour prendre soin de vous et répondre à vos questions, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors comment allez-vous ? J'imagine qu'en consultation, c'est un peu la panique en ce moment.
C'est vrai que c'est compliqué, mais j'ai une pensée pour mes collègues, mes confrères médecins, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Mais aussi les infirmières, les aides-soignantes, on ne parle pas souvent des brancardiers, mais aussi des ambulanciers, les auxiliaires de vie, tout le personnel qui fait en sorte que les Français puissent aller bien. Et donc on espère qu'en cette période, on va tenir, car il va falloir être un peu endurant, mais essayons d'être un petit peu optimiste.
Merci beaucoup Jimmy. Alors au programme cet après-midi, on ne parlera donc que du coronavirus et des questions médicales que vous vous posez. On en a reçu beaucoup des questions et on en reçoit toujours d'ailleurs au moment où je vous parle. D'ailleurs n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc si vous avez des questions, ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, qui seront d'ailleurs reversés à l'Institut Pasteur. Alors pour vous éclairer et répondre à toutes vos interrogations, nous aurons bien évidemment des experts en ligne tout au long de l'émission. D'abord le professeur François Bricaire, infectiologue et membre de l'Académie nationale de médecine, qui restera avec nous tout au long de cette émission. Ensuite, pour des questions plus pratiques encore, certains d'entre vous se demandent par exemple s'il est encore prudent d'aller chez son généraliste, même si c'est juste pour une otite. Il interviendra aussi par téléphone, le docteur Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF, la Confédération Syndicats Médicaux Français. Et enfin, nous aurons également avec nous la patronne de l'Ordre des pharmaciens, Karine Wolfthal, pour répondre à toutes vos interrogations concernant vos traitements en cours ou encore sur la marche à suivre pour se procurer du gel hydroalcoolique.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour professeur Bricaire.
Bonjour madame.
Ravi de vous recevoir sur ce plateau, même dans ce contexte un peu difficile. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord, je vous propose d'écouter le docteur Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'APHP, les hôpitaux de Paris, qui était ce matin dans la matinale d'Europe 1.
Nous vivons un moment d'une très grande gravité, un moment exceptionnel. Nous sommes au tout début d'une épidémie qui pourrait être une épidémie d'une ampleur considérable. Et donc, il n'y a qu'une seule chose à faire aujourd'hui pour tous les citoyens qui nous entendent, c'est de se confiner. Il faut absolument éviter les contacts. Non pas tellement pour eux, pour eux-mêmes. Finalement, cette épidémie de coronavirus n'est pas si grave à titre individuel. Elle l'est pour la population, car les plus fragiles d'entre nous vont être touchés. Donc, si vous évitez les contacts, vous sauverez des vies. Chaque jour de confinement qui passe, c'est des vies gagnées, des centaines de vies gagnées probablement pour les semaines qui viennent.
Alors, professeur François Bricaire, vous êtes infectiologue, vous êtes avec nous en ligne. Jusque-là, vous avez fait partie plutôt des médecins qui étaient assez rassurants vis-à-vis de cette épidémie, en tout cas de ce virus lui-même. Est-ce que vous êtes toujours dans cet état d'esprit aujourd'hui ?
Écoutez, je suis dans l'ensemble plutôt, oui, rassurant vis-à-vis de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le virus lui-même et du phénomène épidémique en termes de gravité à l'état individuel. Mais je rejoins tout à fait le collègue qui a lancé cette alerte. C'est vrai qu'à l'état collectif, il est impératif que nous respections les règles telles qu'elles ont été édictées depuis déjà pas mal de temps, qui ont été reprises par le président de la République, et donc d'éviter qu'avec des contaminations multiples, on surcharge le système de santé, et notamment le système hospitalier, puisque même si ce virus n'est pas extrêmement gravissime en termes de mortalité, il donne tout de même suffisamment de cas, si vous voulez, pour qu'il y ait des formes sévères et que ces formes sévères nécessitent une hospitalisation.
Docteur Jimmy Mohamed.
Professeur Bricaire, selon vous, est-ce que les mesures prises à ce stade par les autorités sont suffisantes ou va falloir peut-être passer à un niveau supérieur ? Le président va s'exprimer ce soir pour peut-être annoncer le début d'un confinement maximum. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire, annoncer le confinement ?
Alors écoutez, je crois qu'on va vers le confinement. Dire que c'est absolument indispensable, je ne suis pas sûr que, compte tenu de la sévérité du phénomène épidémique en termes, encore une fois, de gravité, c'est la fréquence peut-être qui choque actuellement peut-être la majorité des gens. En tous les cas, les mesures qui ont déjà été prises ont été des bonnes mesures. L'extension des mesures ont sûrement des avantages pour freiner, c'est ce qu'on veut, l'extension du phénomène épidémique, mais il faut tout de même savoir qu'elles ont des inconvénients. Il y a toute mesure du positif et du négatif.
Et quand bien même on aurait un confinement, ça ne sera pas des résultats pour tout de suite, hein, on est d'accord. Ça met du temps avant d'agir, hein, ce genre de mesures extrêmes.
Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que le confinement est une bonne chose pour freiner le nombre de cas, l'extension du virus dans la population, donc d'améliorer la situation de la prise en charge dans les secteurs d'hospitalisation, mais ça n'empêche pas du tout le phénomène de s'étendre tout de même. Il va s'étendre et puis ça augmentera et on est dans la phase ascendante et c'est ça qui choque peut-être quand on dit ça double, ça triple, etc. Oui, et ça va continuer jusqu'à ce qu'on obtienne le fameux pic épidémique.
Alors professeur Bricard, je l'ai dit, on a beaucoup de questions d'auditeurs concernant l'épidémie actuelle. On va déjà en prendre une, on écoute la question d'Ava.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. En fait, moi j'avais une question par rapport au coronavirus, parce que bon, c'est un petit peu la panique en ce moment, et je me demandais si on pouvait l'attraper, notamment via l'eau, c'est-à-dire quand on boit de l'eau du robinet ou quand on prend une douche. Voilà, bah, merci pour votre réponse et bonne journée.
Professeur Bricard, à ce stade, l'eau du robinet, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein, on est d'accord.
Non, aucun problème. La transmission du virus se fait d'un individu à un autre via les particules de salive dans les postillons et pas plus. Mais c'est déjà suffisant pour qu'on soit en risque d'être contaminé.
Merci. Jimmy, vous voulez juste dire aux gens, le plus important aujourd'hui, c'est de rester chez soi et de limiter ses déplacements. Je crois que ce qu'on a vu ce week-end, c'est pas possible.
Oui, c'est dramatique. Il y a une façon simple de sauver des vies, c'est de rester chez vous. Pour l'instant, le virus contamine entre 2 et 3 personnes en ce moment. Le but, c'est que vous contaminiez moins d'une personne. Et la seule façon, c'est de rester à la maison. Ne sortez pas. Même si vous êtes en bonne santé, vous pouvez être en incubation de la maladie ou être porteur du virus et le transmettre aux autres. Restez chez vous autant que possible.
Merci, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Ava qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, son rendez-vous revient avec évidemment une émission entièrement consacrée aux questions que vous vous posez sur l'épidémie de coronavirus en France. Comment peut-on se protéger chacun individuellement, mais surtout, comment protéger les plus fragiles? Et ça, c'est l'affaire de tous. Nous, en tout cas, notre message aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est rester chez vous si possible, sauf urgence médicale, hein, bien sûr, ou si vous avez besoin de faire des courses dans un premier temps. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h avec une émission aujourd'hui évidemment consacrée au coronavirus et surtout à toutes les questions que vous vous posez. À mes côtés dans ce studio pour vous répondre, le docteur Jimmy Mohamed. Et nous aurons également plusieurs experts hein, jusqu'à 16h. Justement encore en ligne avec nous, l'infectiologue François Bricard. Nous avons reçu beaucoup de questions au fur et à mesure. On essaie d'y répondre un maximum. Là, je vais vous lire la question d'Olivier qui nous a écrit de Milly-la-Faux. Alors actuellement, on nous parle de 14 jours pour la déclaration de la maladie. Si on a été contaminé, ok, mais la question c'est combien de temps pouvons-nous réellement être contagieux, même si on a très peu de symptômes, donc qu'on n'a pas été testé, on n'en est pas sûr. Professeur Bricard, on peut peut-être lui répondre, je ne sais pas. On est contagieux combien de temps si on l'a attrapé?
Oui, c'est une très bonne question, parce que comme toujours, les très bonnes questions sont celles où on a le plus de difficultés à répondre. Alors on est contagieux normalement dans les derniers jours de la phase d'incubation. Ça, c'est ce qui est reconnu. On est bien évidemment contagieux pendant toute la période où on est malade. Et quand les symptômes disparaissent, on dit que normalement, la contagiosité régresse. Mmh. En fait, ce n'est pas complètement exact. Et on pense qu'il peut y avoir pendant encore plusieurs jours une excrétion de virus qui pourrait être contaminante. On peut même retrouver du virus jusqu'à encore une vingtaine de jours chez certains sujets, semble-t-il. C'est à confirmer, hein, parce qu'on ne sait pas encore tout sur ce virus.
On en apprend tous les jours, effectivement.
Chercher. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut être prudent. Mais en tout cas, normalement, on est quand même moins contagieux dès l'arrêt des symptômes que pendant qu'on est malade.
Jimmy ?
C'est pour ça qu'en ce moment, je vois beaucoup de patients très suspects du coronavirus et je les arrête. Là, pour l'instant, c'est la recommandation 14 jours. Ça peut paraître excessif. Mais pour l'instant, on est d'accord qu'il faut les arrêter le plus longtemps possible pour éviter finalement de recontaminer d'autres personnes.
Dans l'incertitude où l'on est encore sur ce point, c'est prudent.
Jimmy, d'ailleurs, vous avez des consultations, vous en avez beaucoup en ce moment, qui sont potentiellement des personnes positives au coronavirus. Comment on fait à la maison si on a un enfant, par exemple, ou même, je ne sais pas, son mari qui tousse, vu qu'on ne sait pas s'il est contaminé, on ne fera pas de test puisqu'on ne teste que les personnes gravement atteintes. Comment on gère ça chez soi ?
C'est très compliqué puisqu'il faudrait avoir des masques. Donc normalement, c'est sur prescription médicale, on ne peut plus avoir de masques. Donc il faudrait qu'on prescrive sur une ordonnance une boîte de masques, par exemple une boîte de 50 masques. Sauf qu'il n'y en a pas à la pharmacie, ils ne sont réservés qu'aux médecins et même les médecins n'en trouvent pas. Dans l'intervalle, je conseille aux gens de rester le plus loin possible les uns des autres, de bien se laver les mains, on évite les contacts, pas de bisous.
La personne qui est malade, elle ne cuisine pas, par exemple, ce genre de conseils.
Oui, pourquoi pas, de les mettre un peu à l'écart, surtout s'il y a des personnes fragiles, mais encore une fois, c'est très difficile à la maison de faire ça, d'autant plus que là, on parle de confinement, donc attention de ne pas transmettre la maladie à son conjoint qui va la transmettre au travail. C'est comme ça que la chaîne de contamination va s'aggraver.
Professeur Bricaire, on a une question de David. David, il est jeune, il a 41 ans, mais des petits soucis de santé, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. J'ai un Wolff Parkinson White. Donc c'est une anomalie que j'ai au cœur avec une voix supplémentaire qui me déclenche des malaises régulièrement. Sauf en fait, j'ai un médicament qui régule en fait mon cœur. Et je voulais savoir parce que moi, chaque fois que j'ai la grippe, en fait, avec ce problème-là, je déclenche derrière des malaises. Et donc du coup, je me dis, voilà, est-ce que du coup, je suis à risque ou pas par rapport à tout ce qu'on entend en ce moment par rapport au coronavirus. Voilà. Je vous remercie pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Professeur Bricaire, est-ce que donc David, avec son problème cardiaque, il est à risque ? Qu'est-ce qu'il doit faire ?
Oui, alors, il y a un certain nombre de problèmes cardiaques qui sont source de fragilisation et qui peuvent favoriser des formes un peu plus sévères du coronavirus. Le Wolff-Parkinson-White est un petit trouble de la conduction qui normalement n'est pas
si grave
quelque chose
que ça,
qui affecte réellement. Alors peut-être que s'il a de la fièvre, par contre, il peut faire plus facilement déclencher un trouble de sa maladie cardiaque. Mais donc s'il a le médicament, c'est bien. Donc au-delà de ça, le risque me paraît modeste.
Jimmy, puisqu'on est sur les personnes à risque, en fait, qui on compte vraiment dedans ? Parce qu'on a entendu finalement qu'il y avait même des jeunes en réanimation. Donc qui est à risque aujourd'hui ?
Ceux qui sont à risque, c'est les plus âgés. On avait parlé de 70 ans, 80 ans, le risque quadruple. En revanche, on se rend compte que des patients plus jeunes, de 50, 60 ans, même sans antécédents, peuvent se retrouver en réanimation. Donc la question, c'est la fragilité, donc des comorbidités, c'est-à-dire des maladies sous-jacentes qui peuvent être décompensées. Vous avez une insuffisance cardiaque qui est plutôt bien équilibrée, vous attrapez le virus, et bien votre cœur peut aller moins bien, vous faites de la bronchite chronique, vous attrapez le virus, et bien vous allez aggraver votre état respiratoire. Donc toute pathologie sous-jacente vous rend plus vulnérable au coronavirus.
Professeur Bricaire, on voit que donc il y a des personnes aujourd'hui sans antécédents qui sont aussi parfois en état grave à l'hôpital, en réanimation. Jusque-là, on avait dit que les enfants étaient assez épargnés par cette maladie. C'est toujours ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'on a l'impression que tout change un peu tous les jours avec ce virus.
Oui, alors les choses évoluent. Hein. Ça, c'est le principe d'un phénomène infectieux avec un agent qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Donc, on en apprend tous les jours. Alors, dans votre question, il y a deux choses. Premièrement, les enfants. Effectivement, pour le moment, les enfants sont porteurs de virus, mais ne font pas de maladies même exprimées ou en tout cas de maladies sévères. En revanche, les gens qui sont sur le front actuellement en milieu hospitalier remarquent quand même dans les populations jeunes, sans aucun antécédent, il y a des formes qui sont potentiellement sévères. Alors, c'est connu dans toutes les viroses graves, ou dans toutes les viroses saisonnières
comme la grippe.
Qu'on rencontre, comme la grippe, il y a des sujets jeunes qui n'ont pas d'antécédents et qui font des formes sévères. Alors là, est-ce qu'il y en a davantage ? C'est possible, je ne suis pas en mesure de répondre.
Et on fera sûrement le bilan à la fin de l'épidémie.
Il y en a, et peut-être plus qu'on ne le pensait au début.
Merci, professeur Bricaire. Vous restez encore avec nous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Sans Rendez-vous revient, une émission consacrée à l'épidémie de coronavirus et surtout à toutes les questions que vous posez. Nous aurons notamment en ligne le docteur Jean-Paul Ortiz, représentant des médecins libéraux français. Il nous dira comment eux s'organisent en ville, dans les cabinets, pour continuer à nous soigner, tout en se protégeant eux aussi du mieux possible. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et vous êtes en ligne avec nous aussi, professeur François Bricaire. Vous êtes infectiologue et membre de l'Académie de médecine. Alors, en attendant les nouvelles mesures qui seront annoncées ce soir par le président de la République, on fait le point sur les questions que vous vous posez dès maintenant. On en reçoit beaucoup au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, qui sont reversés, qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Alors, professeur Bricaire, on a une question de madame Rubineau à laquelle vous allez peut-être pouvoir répondre. On l'écoute.
Oui, bonjour. Il y a une question qui me taraude, c'est que je voudrais savoir si j'ai l'habitude le matin d'ouvrir mes fenêtres, est-ce que je peux les ouvrir ? Je n'ai pas de vis-à-vis proche, est-ce que je peux les ouvrir ou est-ce que je dois garder mes fenêtres fermées ? Au revoir et merci beaucoup.
Professeur Bricaire, comme l'eau, là, l'air, entre guillemets, c'est pas... Enfin, en tout cas, si on n'a pas quelqu'un qui tousse en face de nous, on peut ouvrir nos fenêtres au troisième étage d'un immeuble, quoi, il n'y a pas de problème.
Absolument, et c'est même sûrement une très bonne chose que d'aérer. Par conséquent, étant donné que le virus n'est pas dans l'atmosphère, mais dans la salive des individus, vous pouvez tout à fait ouvrir votre fenêtre.
Très bien, merci. Alors, on a aussi pas mal de questions de gens qui ont des symptômes qui pourraient faire penser au coronavirus ou même à d'autres petites maladies. D'ailleurs, en ce moment, il n'y a pas que le coronavirus, les autres virus respiratoires notamment circulent et qui s'inquiètent de savoir si ce n'est pas dangereux en ce moment de se rendre chez son médecin. Alors, pour répondre à ces Français inquiets sur la façon dont on va être soigné dans les prochains jours, nous accueillons par téléphone le docteur Jean-Paul Ortiz. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes président de la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français. Docteur Ortiz, comment ça se passe dans les cabinets médicaux ces derniers jours ? Déjà, vous avez encore du monde dans vos salles d'attente ?
Alors d'abord, toutes les consultations non urgentes qui ont pu être décalées ont été décalées, en particulier les renouvellements d'ordonnances ou les choses comme ça. Après, comme vous le disiez, Mélanie Gomez, nous avons une pathologie hivernale classique qui continue, mais bien entendu, il y a certainement en nombre croissant, voire très croissant, des patients qui sont atteints de coronavirus avec, je le répète, des tableaux qui sont la plupart du temps bénin, mais malheureusement, un certain nombre vont nécessiter des soins beaucoup plus attentifs, de l'hospitalisation, voire de la réanimation, parce que ce sera des cas graves. Ce qui est fait dans les cabinets médicaux aujourd'hui, en particulier en médecine générale, et beaucoup se sont organisés pour cela, c'est deux circuits.
Ah oui,
c'est-à-dire donner des horaires précis de consultation pour les patients qui présentent un syndrome infectieux, par exemple plutôt en fin de journée, ou dans les endroits où c'est possible, dans les cabinets regroupés, dans les cabinets de groupe, les centres médicaux, etc.
On a
séparé avec deux salles d'attente.
Docteur Rossis, on a une question d'Aurélie, qui est une jeune maman de 34 ans, je vous la lis. J'ai trois enfants en bas âge, qui d'ailleurs ont déjà tous le nez qui coule, mais pas plus que d'habitude. Mon cadet fait régulièrement des otites qui me conduisent souvent chez le généraliste. Si cela devait arriver aujourd'hui, dans les prochains jours, je fais quoi ? Je ne prends pas le risque d'y aller et de me retrouver du coup dans un bouillon de culture dans salle d'attente. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Aurélie ?
Alors, on peut lui répondre d'abord que les enfants sont très souvent porteurs, sans même avoir de tableau important ou grave, et y compris au niveau mondial, il n'y a pas eu de cas grave et de décès chez les moins de 15 ans.
Et elle peut venir chez le généraliste pour une otite, ça vaut le coup ? Enfin oui, il faut la traiter de toute façon,
écoutez,
l'otite.
Si elle a besoin d'une consultation médicale pour un de ses enfants parce qu'elle a l'habitude de l'amener et que cet enfant nécessite une prise en charge médicale, il faut qu'elle aille voir son médecin habituel qui suit cet enfant, médecin généraliste ou pédiatre. Par contre, je lui conseillerais de téléphoner avant pour que le médecin lui réponde dans son organisation.
Jimmy, vous d'ailleurs, vous faites des consultations à domicile. Il y a des patients qui peuvent aussi favoriser ça. Il y a encore des médecins d'ailleurs qui se déplacent. Vous travaillez pour
bien sûr. Les médecins sont aussi comme les généralistes en première ligne. Et évidemment que là ce matin, j'ai vu un enfant de 2 ans qui avait 3 jours de fièvre à 39. La maman a hésité à aller aux urgences. Donc n'allez pas aux urgences. Première chose. Deuxième chose, le cabinet du généraliste éventuellement. Et puis évidemment, vous pouvez voir un médecin à domicile. Elle ne voulait pas se trimballer dans la salle d'attente. On peut comprendre les craintes, même si effectivement, il faut soigner quand même l'otite d'un enfant de 2 ans qui pleure et qui a mal.
Merci Jimmy. Docteur Ortiz aussi, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à faire un point sur la médecine de ville. Les médecins généralistes, les médecins libéraux notamment, sont-ils prêts et équipés à recevoir les nombreux patients potentiellement porteurs du coronavirus qui vont arriver dans leur cabinet ? Et pour les autres problèmes de santé, quelle doit être la marche à suivre ? D'ailleurs, qu'en est-il de la protection vraiment de nos soignants sur le terrain ? Ont-ils enfin reçu les masques promis par le gouvernement ? On vous dira tout. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et avec nous toujours en ligne le docteur Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français. Docteur Ortiz, on a parlé de la façon dont vous vous débrouillez pour accueillir encore les patients dans vos cabinets avec ces deux circuits, notamment pour ceux qui sont peut-être potentiellement porteurs du coronavirus et les autres. Vous, les médecins libéraux, comment vous vous protégez? Parce que donc des patients coronavirus, forcément, aujourd'hui, vous en voyez et vous en croisez forcément.
Alors c'est une difficulté que nous avons aujourd'hui parce que les médecins libéraux ont eu, lorsqu'ils les ont, des masques chirurgicaux très tardivement par rapport au secteur hospitalier. C'est une protestation qu'on a émise de nombreuses fois. Actuellement, des masques chirurgicaux, vous savez, les masques simples sont à peu près disponibles, même si on n'a pas assez, en particulier pour nos personnels, je pense à nos secrétaires, les personnels qui travaillent
avec nous. Oui, parce qu'elles aussi, elles sont en première ligne, les secrétaires. Elles vous accueillent, vos patients, donc...
Bien sûr, et il faut aussi les protéger. On sait que ces masques chirurgicaux ne sont protecteurs de façon relativement efficace que s'il y a un double masque, c'est-à-dire un masque pour le soignant, un masque pour le soigné. Et nous attendons avec impatience ce qu'on appelle les FFP2, les masques en bec de canard, qui sont, eux, particulièrement efficaces, que nous n'avons toujours pas. Mmh. On nous les a promis pour cette semaine, on ne les a toujours pas. Et ça, c'est un vrai problème, parce que les médecins libéraux sont en première ligne, et aujourd'hui, ils n'ont pas l'ensemble des moyens pour se protéger. Néanmoins, ils assument leur rôle vis-à-vis de la population, et ils font au mieux dans les conditions dans lesquelles nous sommes.
Jimmy ?
Ce qui est vrai, ce qui est inquiétant, c'est qu'on nous a dit initialement non, les masques FFP2 ne sont pas finalement nécessaires, les masques chirurgicaux suffisent. Puis là, on a un peu un petit retour en arrière. Moi, j'ai des confrères qui sont hospitalisés, positifs au coronavirus. Jusqu'à quand les médecins de ville vont être essorés? Effectivement, ils sont en première ligne, mais on est face à une situation compliquée. Moi, je ne sais pas, docteur Ortiz, combien il vous reste de masques, mais moi, il me reste 4 masques FFP2. Après ces 4 masques FFP2, je ne sais pas si j'en aurai d'autres. Et je vais me contenter des masques chirurgicaux qui restent imparfaits. Les smuristes, les réanimateurs ont des masques FFP2. Donc, je ne sais pas, vous, quel est l'état de votre stock?
Actuellement, je n'ai pas de masque FFP2 dans mon cabinet. On m'en a promis pour cette semaine. J'espère que j'en aurai rapidement. Je n'ai que des masques chirurgicaux. Et on a eu droit à une boîte de 50 masques chirurgicaux dans les bons cas, pour les médecins, en allant chacun dans une pharmacie. Donc, ça n'a pas été simple à organiser. Mais une fois que vous avez utilisé les 50, vous êtes vraiment démunis. Et je redis qu'il y a des médecins qui n'en ont pas eu parce qu'il n'y en a pas eu assez de débloqués. On nous promet au niveau du ministère que ça va être fait. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas encore à l'heure de ce point de vue-là.
Et qu'attendez-vous, vous, concrètement, donc en termes d'équipement, des masques, ça, j'ai bien compris, des FFP2 qui devraient donc être livrés rapidement, selon le gouvernement. Vous ferez d'autres choses pour vous protéger? Parce qu'on voit qu'à l'hôpital, ils ont des lunettes aussi.
Tout à fait. Théoriquement, il nous faudrait des lunettes, en particulier pour les patients qui sont atteints. Théoriquement aussi, il faudrait des surblouses, ou en tout cas se changer complètement en fin de journée. Mm-hmm. Et là aussi, en particulier dans les systèmes que nous organisons avec des points de consultation où on va essayer de réunir les patients qui sont suspects ou qui ont de la fièvre et qui toussent. Il faut absolument qu'on équipe ces points de consultation qui sont des maisons médicales de garde qui vont fonctionner dans la journée, qui sont des localisations, par exemple dans des locaux municipaux mis à disposition. Il y a plein de choses qui se font dans le pays, mais il faut équiper tous les professionnels de santé qui vont prendre en charge les patients. Nous sommes dans une situation grave, nous sommes dans une guerre sanitaire et il faut que nous, qui sommes les soldats de première ligne, on soit armés. Sinon, effectivement, la population va souffrir encore plus.
Jimmy ?
Et docteur Ortiz, est-ce que, je suppose comme nous, vous avez renforcé les mesures d'hygiène? Fut un temps, je ne veux pas dire que je n'étais pas exemplaire, mais désormais, le terminal de carte vitale est nettoyé entre chaque consultation. L'oxymètre qui sert à prendre la saturation, notamment chez les patients qui peuvent avoir des signes de gravité, même s'ils vont bien, il faut vérifier qu'ils ne désaturent pas. Et bien cet oxymètre, je le désinfecte systématiquement. Je suppose que vous aussi, vous avez renforcé ces mesures d'hygiène pour éviter de disséminer la maladie. Car il faut être honnête, nous les médecins, on est aussi des vecteurs potentiels de l'épidémie si on ne prend pas les mesures nécessaires.
Bien sûr, non seulement les médecins sont des vecteurs potentiels, sont des porteurs potentiels et donc des vecteurs de l'épidémie, mais tout un chacun, tous les Français sont des potentiels vecteurs. En ce qui me concerne, je consulte avec un masque toute la journée et j'ai mis des affiches dans mon cabinet de façon à ce que dès qu'il y a un patient qui a de la fièvre ou qui tousse, il le signale et pour l'instant, on essaie de lui donner un masque ou de l'isoler, mais c'est vrai que c'est pas très simple parce qu'on manque de matériel.
Il faut pas oublier que les médecins libéraux, d'ailleurs, et c'est un problème aujourd'hui puisqu'on sait qu'on a des zones de déserts médicaux et ça va pas arranger les choses, ils sont âgés en plus sur le terrain, donc ils sont potentiellement en plus à risque d'être très gravement malades.
Tout à fait, c'est pour ça que nous avons appelé les médecins, quand ils le peuvent, à se consacrer aux urgences et à ce qui n'est pas, et à ce qui ne peut pas attendre, et surtout à développer la téléconsultation. Aujourd'hui, on peut faire de la téléconsultation. Ça évite le déplacement du patient, et donc, chaque fois qu'un Français se déplace, il est potentiellement diffuseur du virus, et ça, il faut absolument l'éviter. Il faut que les Français comprennent qu'il faut qu'ils restent chez eux. Il faut qu'ils sortent vraiment au minimum. Le confinement, c'est l'arme collective que tout un chacun a à sa mesure pour éviter cette épidémie qui risque d'être dramatique. Je le redis, c'est une responsabilité individuelle qui nous incombe à tous, et c'est tous ensemble qu'on gagnera, mais si tout le monde le fait. Parce qu'effectivement,
si ça dure trois mois, comme certains l'estiment, comment vous allez tenir, vous les libéraux ?
Écoutez, nous assumerons ce que nous devons assurer, c'est-à-dire les soins à la population, les soins aux patients âgés, les patients atteints de Covid-19. Nous ferons ce qui est nécessaire pour tous les patients en termes d'urgence, tout ce qui ne peut pas être décalé. Mais il faut que les Français comprennent que c'est de leur responsabilité individuelle et collective et qu'il faut se déplacer le moins possible. C'est pour ça que la téléconsultation est une réponse qui, en situation de pandémie dans laquelle nous sommes, est bien adaptée pour éviter ces déplacements.
Docteur Ortiz, est-ce que vous avez les mêmes problèmes que nous, notamment en Île-de-France, sur les gels hydroalcooliques ? Moi, j'ai des fonds de bouteilles, j'ai pas de perspective. Comment vous faites ?
Eh bien, actuellement, moi, il m'en reste encore un peu. Pour ne rien vous cacher, j'ai fait mes fonds de tiroir et j'en ai trouvé un peu. Mais c'est vrai que ça commence à être problématique et on devrait en avoir dans les pharmacies puisqu'ils devraient pouvoir en fabriquer dans les jours qui viennent.
Il manque de matières premières, je crois. Enfin, on verra tout à l'heure avec la patronne de l'Ordre des pharmaciens, justement, ça. Mais vous en avez encore un tout petit peu, mais pas de quoi tenir trois mois, quoi.
Ah, je ne tiendrai pas trois mois, ça c'est clair.
Merci beaucoup docteur Ortiz d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous pour répondre aux questions que nous nous posons tous en ce moment. Dimi, merci également d'être là, vous restez avec nous. Vous pouvez bien sûr nous laisser vos questions, notamment sur les réseaux sociaux, hashtag Radio Ouverte.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Santé revient. On vous donne la parole et on répond bien sûr à toutes les questions médicales que vous vous posez avec nos experts en ligne. Dans quelques minutes, je l'ai dit, Karine Wolfthal, la présidente de l'Ordre des pharmaciens, sera avec nous. On parlera notamment de cette possibilité de faire renouveler vos ordonnances pour des maladies chroniques, notamment directement en pharmacie. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission...
Bonjour Mélanie,
votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Vous l'aurez compris, on a plein de questions. Du coup, elles partent toutes seules aujourd'hui sur cette émission spéciale coronavirus. Donc à mes côtés, toujours le docteur Dimi Mohamed et l'infectiologue François Bricaire. Aujourd'hui, vous l'aurez marqué, donc Europe 1 se mobilise. Nous vous donnons donc la parole. On tente de répondre à vos questions médicales très pratiques dans ce contexte d'épidémie. Alors pour ce faire, nous sommes en ligne également avec vous, Karine Wolfthal. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes la présidente de l'Ordre national des pharmaciens. Merci d'être avec nous. Alors, autre mesure qui a été annoncée il y a peu, donc pour les patients qui ont des ordonnances en cours, ils vont avoir la possibilité de venir faire ce renouvellement directement en officine, c'est ça ?
C'est exact. Pour tout patient qui a un traitement chronique stabilisé et des ordonnances renouvelables qui arrivent à la fin de leur validité, les pharmaciens pourront renouveler pour un mois et ce jusqu'au 31 mai.
D'accord, c'est pour éviter les embouteillages dans les cabinets des médecins pour des simples renouvellements d'ordonnances aussi, c'est ça ?
C'est absolument ça.
Quel type de traitement ça concerne ? Par exemple, si j'ai de l'asthme et que j'ai plus d'ordonnance, c'est une question qu'on nous a posée sur les réseaux sociaux. Je suis asthmatique, je n'ai plus d'ordonnance de Ventoline. Est-ce que là, vous pouvez faire quelque chose pour eux ou c'est pour d'autres maladies ?
Non, c'est effectivement pour toutes les maladies chroniques, et à partir du moment où on a une ordonnance renouvelable au départ. Par exemple, une ordonnance de 1 mois renouvelable ou 3 mois renouvelable, si on arrive à la fin de cette période de 1 mois ou 3 mois, on pourra la renouveler pour tout type de traitement.
Ah oui, ce qui veut donc dire que, par exemple, lorsque vous avez une contraception pour la pilule, c'est pas... Alors, souvent on le met à renouveler, mais ce n'est pas systématique. C'est-à-dire que la pilule contraceptive ne pourra pas être forcément renouvelée ?
si, à partir du moment où sur l'ordonnance d'origine il y avait marqué à renouveler, on pourra la renouveler. Après, on pourra bien faire, bien sûr, faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire des avances, et puis ils pourront être régularisés ça, plus tard.
Ça, c'est vrai pour la pilule, mais du coup, pour tout ce qui est somnifère, les hypnotiques, c'est une question qui revient souvent. Là, cette prescription, elle n'est pas à renouveler. Là, on est obligé d'aller chez le médecin. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on fasse des mesures d'exception pour éviter d'avoir justement trop de monde dans les cabinets ? Au contraire, qu'il faut garder quand même une certaine marge ?
Alors effectivement, les hypnotiques, c'est un petit raté, j'allais dire, dans l'écriture de l'arrêté, puisque l'idée, c'était bien de renouveler y compris les hypnotiques. Mais comme vous l'avez souligné, ces traitements et ces ordonnances ne sont pas renouvelables. Donc il y a probablement un petit ajustement à faire dans le cas des hypnotiques. Mmh.
Alors, autre sujet, professeur Bricard, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes infectiologue et membre de l'Académie de médecine. Alors, ce week-end, le ministre de la Santé a dit « Si vous avez des symptômes qui peuvent faire penser que vous avez peut-être le coronavirus, surtout, ne prenez pas d'anti-inflammatoires type Nurofen, Advil. » Pourquoi cette recommandation ?
Alors, on sait déjà depuis un certain temps que l'utilisation des anti-inflammatoires qu'on appelle anti-inflammatoires non stéroïdiens, sont possiblement avec des risques, donc des effets indésirables, des possibilités de réaction qui aggraveraient la situation, raison pour laquelle cette précaution a été mise en avant par le ministre.
Est-ce que cette précaution marche aussi pour les anti-inflammatoires stéroïdiens, notamment les corticoïdes ? Est-ce qu'il faut quand même éviter cette prescription ? C'était un message apparemment en ce sens-là, mais est-ce qu'on aura les mêmes risques et les mêmes craintes ?
Oui, alors ce n'est pas les mêmes craintes tout à fait. Les corticoïdes, ce n'est pas utilisé systématiquement, loin de là. Mais si votre médecin estime que des anti-inflammatoires doivent être prescrits pour une raison ou pour une autre dans le cadre de cette infection à coronavirus, à ce moment-là, je pense personnel que les corticoïdes valent beaucoup mieux que les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Alors, puisqu'on est sur les traitements, ou en tout cas les choses qu'on peut utiliser éventuellement contre ce virus, on a également une question d'Alexandre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, qui demande pourquoi certaines huiles essentielles réputées antivirales ne seraient-elles pas efficaces ? Quels en sont les risques ? Je ne sais pas qui souhaite répondre, Jimmy, ou alors Karine, peut-être ?
Ouais, en fait, les huiles essentielles ont effectivement des vertus, mais on ne peut pas, en tout cas en ce qui concerne le coronavirus, prétendre qu'elles sont efficaces contre le coronavirus.
Professeur Bricard, vous avez un avis sur la question ?
Écoutez, je pense qu'il faut rester prudent sur l'efficacité des huiles essentielles. Ça fait sans doute pas de mal, mais d'ici à dire que c'est une activité démontrée sur le coronavirus, sûrement pas.
Oui, au même titre que l'homéopathie, si ça vous chante, prenez-en, mais si vous n'allez pas guérir de ça et vous n'allez pas éviter des complications graves du coronavirus, il faut juste rappeler à la population. Mais je pense que ce message est passé, de ne prendre que du paracétamol, de rappeler la dose, c'est 3 grammes par jour, 60 mg par kilo et par jour, et ne pas aller au-delà au risque finalement d'effets secondaires. On prend simplement du paracétamol.
Karine Wöftal, j'imagine qu'en officine, il y a beaucoup de questions de patients, notamment sur les anti-inflammatoires dont on vient de parler. Une fois que le ministre l'a annoncé ce week-end, ça a dû, j'imagine, générer pas mal de questions. Pour les gens qui en prennent au long cours, parce qu'il y a des gens, ils en prennent pour des traitements, je ne sais pas, pour des maladies inflammatoires chroniques, rhumatismales par exemple. Ces gens-là, ils peuvent continuer. Vous leur répondez quoi aux patients ?
Oui, absolument. Il ne faut surtout pas interrompre les traitements habituels, classiques, sans avis médical, parce que ça reste la priorité. Et que si ces personnes-là devaient être atteintes ou à suspicion de coronavirus, il est urgent évidemment de prendre avis auprès de son médecin pour reconnaître la conduite à tenir et d'adaptation éventuelle de traitement, mais surtout pas de sa propre initiative modifier son traitement chronique.
Bah oui, parce que vous risquez de flamber votre maladie. Vous avez une polyarthrite rhumatoïde qui est bien équilibrée sous anti-inflammatoires, notamment des corticoïdes. Vous arrêtez brutalement notamment ces corticoïdes. Vous risquez deux choses. Un, la flambée de la maladie avec peut-être des complications. Et puis deux, il ne faut pas oublier que vous risquez l'insuffisance surrénalienne aiguë, c'est-à-dire que votre surrénale, elle est habituée à avoir de la cortisone. Si vous l'arrêtez tout d'un coup, vous risquez de finir aux urgences. Donc on n'arrête pas un traitement de fond sans avis du spécialiste ou du généraliste.
Karine Wöftal, on a une question aussi sur le gel hydroalcoolique à laquelle vous pourrez sûrement répondre. On écoute la question de Fanny.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Il paraît que les pharmaciens peuvent fabriquer du gel hydroalcoolique, mais dans les pharmacies près de chez moi à Agen, je n'en vois pas du tout. Je n'ai rien trouvé. Vous pensez qu'ils s'y mettront quand ?
Karine Wöftal, je crois qu'il y en a déjà qui ont commencé, mais c'est vrai que peut-être qu'ils en ont déjà plus. Je ne sais pas, on en est où ?
Alors, effectivement, les pharmaciens se sont mobilisés. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est d'abord d'obtenir nous-mêmes les matières premières, en particulier l'alcool. Donc, qu'il est très difficile de se procurer en quantité nécessaire. Et la deuxième difficulté qu'on a, c'est d'avoir les flacons pour lesquels on est également en rupture. Donc, en fait, les pharmacies qui en ont fabriqué demandent aux patients de revenir avec un flacon vide qui a déjà contenu, par exemple, du gel hydroalcoolique pour le remplir.
Et vous n'en donnez pas d'ailleurs autant qu'on veut. Hein, on ne vient pas avec des gros bidons à remplir. Hein, vous rationnez un petit peu,
non,
je crois.
Non, absolument. Hein. Oui, on limite à 50 ou 100 millilitres. Alors, bien évidemment, en fonction de ce que la pharmacie dispose. Il y a aussi les pharmaciens sous-traitants qui sont habitués à faire de la sous-traitance pour les pharmaciens qui en fabriquent en énorme quantité en ce moment et qui fournissent donc à leurs confrères des bidons qu'il suffit après de reconditionner en petits flacons, encore une fois, les petits flacons qu'on nous apporte. Donc, c'est en train de se mettre en place. On est aussi en train de trouver d'autres solutions avec des formules toujours de l'OMS, mais avec d'autres formes d'alcool pour justement contourner la difficulté qu'on a en approvisionnement.
Merci à vous, Karine Wolfthal. On reste encore un peu ensemble. Et un grand merci à vous, professeur Bricaire, d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Dans quelques minutes, votre émission Sans Rendez-vous revient jusqu'à 16h. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions médicales dans ce contexte d'épidémie au coronavirus. Votre quotidien est déjà en train de changer. On en parle avec vous, avec des experts en ligne, à la vitesse à laquelle se propage ce virus. Un seul mot d'ordre, restez chez vous et limitez le plus vos déplacements. Cette épidémie, c'est l'affaire de tous. À présent, un peu de musique sur Europe 1. Ça fait du bien, une petite pause musicale. On écoute la chanteuse H. Ça s'appelle Moral of the Story.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et par téléphone, vous êtes toujours avec nous, Karine Wolfthal, vous êtes présidente de l'Ordre National des Pharmaciens. Alors une question très pratique pour vous, c'est Aurélien qui nous l'a laissé sur le hashtag Radio Ouverte, je vous la lis. Depuis des années, surtout ces derniers mois, avant même l'apparition de cette épidémie, on n'a pas arrêté d'entendre que les pharmaciens étaient en rupture de stock pour plein de médicaments contre l'hypertension, des anticancéreux ou même des vaccins. Y a-t-il un risque pour que l'on manque à un moment donné de Doliprane, par exemple? D'ailleurs, ne faut-il pas faire des stocks? Karine, qu'est-ce qu'on peut répondre à Aurélien, pardon?
Alors, bien évidemment, ne pas faire de stock, parce que c'est justement quand on fait des stocks qu'on provoque et qu'on génère la pénurie et la rupture. À ce jour, il n'y a pas de risque identifié, notamment sur le paracétamol.
Les gens se sont un peu rués dessus quand même ou pas depuis l'annonce notamment du ministre d'éviter plutôt les Advil, les compagnies, les anti-inflammatoires. Est-ce qu'il y a eu une petite ruée sur le Doliprane du coup?
Il y a effectivement une demande peut-être accrue ces derniers temps, mais justement là il faut appeler là encore une fois à la raison de dire il n'y aura pas de problème si chacun est raisonnable et n'utilise que ce dont il a besoin et c'est l'effet, ce qu'on appelle l'effet sucre, hein, c'est-à-dire un peu ce qu'on a vu sur les pâtes, le riz, etc. C'est ces comportements-là qui peuvent effectivement à terme possiblement provoquer un problème. Mais à ce jour, je le répète, je voudrais vraiment être rassurante, il n'y a pas de raison de stocker le paracétamol.
Si on reste raisonnable, bien sûr. Jimmy ?
Une question récurrente, la question des masques. Il faudrait que les professionnels de santé puissent en avoir. J'ai l'impression que ça va peut-être se débloquer, on nous dit ça depuis plusieurs jours. Mais il faudrait aussi que les patients puissent en avoir, puisque finalement, lorsque le patient se protège, il protège aussi les autres. Est-ce que vous savez où est-ce que ça en est un petit peu ?
Alors, oui, j'ai plusieurs réponses à vous apporter. Donc, effectivement, comme vous le savez, les autorités ont demandé au réseau des officines de se mobiliser pour fournir les masques aux professionnels de santé. Donc, on est en train, à l'heure où je vous parle, justement, de mettre les métiers de la distribution, en gros, de la répartition des médicaments, se met en œuvre pour acheminer les masques aux professionnels de santé, donc les fameux masques FFP2 et les masques chirurgicaux. Néanmoins, c'est une très grosse logistique. Les camions vont sillonner toute la France.
Mais ils sont déjà en officine pour certaines régions, l'Oise ou dans l'Est, par exemple?
C'est ce que je vous dis. Non, les camions vont sillonner la France à partir de demain ou plus tôt pour les régions les prioritaires et probablement pas avant le milieu, voire la fin de la semaine pour les autres régions. Mais c'est en train de se mettre en marche. Les camions sont sur la route et donc ça va prendre encore 24 à 48 heures avant qu'ils arrivent jusque dans les les officines et donc vers les professionnels de santé.
Donc en fin de semaine, on peut espérer, en fin de semaine, on peut espérer les médecins libéraux dans les zones sous tension avoir des masques, puisque comme ça, certains n'en ont pas du tout. Donc il y a peut-être une lueur d'espoir pour au moins se protéger et aussi protéger les autres.
Absolument. Donc c'est en route. Avant de vous parler, j'étais avec la cellule de crise et on organise la logistique. Voilà, maintenant il faut ce temps de la logistique, mais c'est, j'allais dire, c'est dans les tuyaux ou sur la route. Et donc concrètement dans les officines et chez les professionnels de santé, milieu ou fin de semaine, en fonction de la priorité des territoires. La question des masques aux patients, je dirais la priorité, c'est de respecter les mesures de confinement et de rester chez soi, parce qu'à partir du moment où on reste chez soi, eh bien, il n'y a plus besoin de masque.
Oui, quand on est malade, on reste à la maison de toute façon, c'est ça la consigne. Et à la maison, eh bien, on évite ses proches si on est malade. Et voilà.
Parce qu'il faut bien quand même garder en tête que les masques sont une denrée rare, je pense que tout le monde l'a compris, et qu'il faut effectivement les réserver aux professionnels de santé et les patients et la population. La consigne, c'est vraiment, s'il vous plaît, restez le plus possible à la maison. Ne venez à la pharmacie que par et privilégiez par téléphone les commandes. Les pharmaciens vous livreront les médicaments, etc. Mais vraiment, restez le plus possible chez soi.
C'est vrai qu'on parle souvent des médecins, des infirmiers, et pas souvent des pharmaciens. Pour autant, vous êtes en première ligne et vous, tous les jours, vous recevez des dizaines, voire des centaines de patients. Comment est-ce que vous vous protégez ? J'ai pas l'impression de voir des masques sur le nez des pharmaciens.
Mais non, ça a été d'ailleurs un sujet de grande discussion sur la première dotation de masques. Les pharmaciens
n'en avaient même
pas
pour
pas
vous,
prévus.
Quoi, c'est ça ?
Non. Non, donc les pharmaciens n'étaient pas prévus dans la dotation de masques. Et effectivement, j'allais dire, on travaille sans filet. Moi, j'étais moi-même à la pharmacie ce matin.
Sans filet. Vous faites comment ? Alors, vous mettez à distance des patients ? Vous les faites rentrer un par un ? Enfin, vous faites quoi pour vous protéger ?
C'est ça. Ouais. Ben, c'est exactement ça. On a ce qui est d'ailleurs recommandé pour tous les espaces recevant du public, et il n'y en a vraiment plus beaucoup maintenant, mais on a installé dans les officines des lignes au sol pour respecter les 1 mètre de distance, les 1 mètre 50 du comptoir. Et puis on fait rentrer les patients en nombre qui permet de pas être collés dans la pharmacie. Et puis on respecte les procédures de désinfection, de lavage des mains, de gel hydroalcoolique pour les pharmaciens, mais ça veut dire nettoyer après chaque client le comptoir, etc.
Merci beaucoup Karine Wolfthal d'avoir été avec nous pour répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1, et bravo pour votre travail et à tous les pharmaciens sur le terrain qui aussi sont en première ligne. Alors Jimmy, avant de terminer cette émission, on va prendre une dernière question, c'est celle de Lily, on l'écoute.
Bonjour, je suis Lily de Paris. Voilà, je vous explique. Les gens ont peur de m'aider à traverser, je suis aveugle, ils ont peur de m'aider à traverser, de peur d'être contaminés. Ils ont tellement peur du virus qu'ils ne veulent même plus me prendre le bras, quoi. Quand les carrefours sont dangereux, c'est un véritable problème. Est-ce qu'on peut expliquer à l'antenne que coronavirus ne s'attrape pas quand on prend le bras de quelqu'un, s'il vous plaît ? Parce que ça met les aveugles en danger. J'en ai parlé à une amie. Elle m'a dit, mais il faut les comprendre. Oui, mais moi, il faut me comprendre aussi. Il faut informer les gens. Merci beaucoup.
Merci Lily pour votre témoignage. Alors on est bien sûr désolé de voir les conséquences négatives sur votre quotidien. Jimmy, qu'est-ce qu'on peut dire à Lily ?
Lily, restez chez vous, c'est le confinement, c'est ce qui vous protégera et protégera les autres. Et puis c'est vrai que si vous avez une personne malvoyante qui veut traverser la route, aidez-la, tenez-lui le bras sans lui toucher la main, vous risquez pas grand-chose. Mais voilà, n'oubliez pas les personnes les plus fragiles.
Voilà, c'est la fin de cette émission. On espère qu'on a pu déjà répondre à certaines de vos questions. N'oubliez pas, demain, rebelote, nous restons mobilisés. Envoyez-nous vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, qui seront reversés à l'Institut Pasteur. À présent, je vous laisse entre de bonnes mains, celle de Mathieu Noël et son équipée sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, restez avec nous. L'équipée sauvage est là, j'ai envie de dire au grand complet. On est au grand complet virtuel, puisque par mesure évidemment de sécurité sanitaire, nos journalistes vont être en compétition, mais chacun chez soi, par ligne, avec une qualité sonore exceptionnelle, digne des moyens colossaux d'Europe 1. Et notre invitée sera au téléphone avec nous, Tatiana Doronet, pour son roman Les Fleurs de l'Ombre, un roman qui évoque un futur apocalyptique où tout part en vrille, cette circonstance.
Merci, je vous souhaite une bonne émission et vous, restez sur Europe 1.